Chapitre 5. Nous avons dit que Louis XIII faisait des ballets et le cardinal de Richelieu des comédies. À cette époque, la danse était à la mode. Nous verrons tout à l'heure danser le cardinal. Nous avons raconté comment Sully, pour se délasser de ses journées de travail, dansait tous les soirs devant ses intimes. La Vieuville, le surintendant des finances, aimait fort la danse lui aussi. Quand c'étaient les femmes qui venaient lui demander de l'argent, il leur faisait danser des courantes. Quand c'étaient des hommes, il faisait des brasses comme un nageur et répondait « je nage, il n'y a plus de fond ». Scapin, qui faisait partie d'une troupe de comédiens que Marie de Médicis avait fait venir de part de la Lémon, se présenta un jour chez M. de la Vieuville pour être payé. M. de la Vieuville commence à faire, vis-à-vis du comédien, les mêmes pasquinades qu'il faisait vis-à-vis de tout le monde. Scapin le laisse aller jusqu'au bout et applaudit, puis « Maintenant, mon sou, dit-il, vous avez fait mon métier. Eh bien, à cet tour, faites le vôtre. » Au reste, le roi, la veille du jour où il lui avait confié les finances, l'avait invité à dîner avec lui et lui avait fait manger tout un pot de coing confit. Le roi, qui faisait ministre un pareil homme, n'aurait-il pas dû en faire venir un second pot pour lui tenir compagnie? Louis XIII, en voyage, acceptait les bals qu'on lui offrait dans les plus petites villes. Un jour, ou plutôt une nuit, qu'il avait accepté pareille invitation, une des danseuses, nommée Catingo, monta sur un siège pour prendre un bout de chandelle de suif dans un chandelier de bois. Il n'y avait dans cette action rien de bien séduisant. Mais le roi Louis XIII n'était point comme les autres hommes. Il devint amoureux de cette jeune fille, disant qu'elle avait fait la chose avec tant de grâce qu'elle lui avait ravi le cœur. En partant, il lui fit donner 10 000 écus, lui recommandant de bien garder sa vertu. Nous avons raconté ce qu'il avait dit à Madame de Chevreuse, qu'il n'aimait ses maîtresses que jusqu'à la ceinture. En somme, le roi ne fut véritablement épris que de deux personnes, de Mademoiselle Lafayette et de Mademoiselle Hautefort. Quand nous en serons dans l'année 1630, année qui vit naître ses singulières amours, nous raconterons les royales fantaisies de Sa Majesté et nous dirons jusqu'où elles allaient. En général, quand il commençait à cajoler une fille, il lui disait « pas de mauvaises pensées ». Quant aux femmes mariées, il ne les regardait même pas. Aussi était-il, à cet endroit, fort sévère pour autrui. Rebuté un jour des débauches de deux musiciens de sa chapelle, nommés Moulinier et De Justice, il leur fit retrancher la moitié de leurs appointements. Ils vinrent au petit coucher du roi à moitié habillés, l'un ayant un pourpoint et pas de haut de chausses, l'autre ayant un haut de chausses et pas de pourpoint. Ainsi costumés, ils se mirent à danser une sarabande. « Que veut dire cela ? » fit le roi. « Et quelle est cette mascarade ?»« C'est, sire, répondit Marais, que des gens qui n'ont que la moitié de leurs appointements ne peuvent s'habiller qu'à moitié. » Le roi rit à la fois du mot et de la chose et les reprit en grâce. C'était ce Marais qui disait au roi Louis XIII « Sire, il y a dans votre métier deux choses dont je ne m'accommoderai jamais. »« Lesquelles ?» demanda le roi. « C'est de manger seul, répondit Marais, et de « ch » en compagnie. » Et cependant, Louis XIII faisait des chansons à Céleste. Témoin celle-ci dont il ne nous reste que le refrain « Semez graines de coquettes et vous aurez des cocus. » Non seulement il faisait les paroles de ses chansons, mais souvent aussi il en faisait les airs. Il est vrai que parfois il faisait les airs et chargeait quelque autre de faire les paroles. C'est ce qui lui arriva un jour qu'il avait fait un air qui lui plaisait fort. Il envoya quérir Boisrobert pour lui faire des paroles. C'était au moment où le roi était épris de Mademoiselle de Hautefort. Boisrobert fit des paroles sur cet amour. Le roi les écouta. « Elles vont bien, dit-il, mais il faudrait ôter le mot de désir, attendu que je ne désire rien. » Puisque nous tenons Boisrobert, faisons le plus amplement connaître à nos lecteurs. Boisrobert, qui à l'époque dont nous parlons avait une trentaine d'années, ne se nommait point Boisrobert, il s'appelait Métel. Il était né à Caen vers 1592, était le fils d'un procureur huguenot et fut élevé lui-même dans la religion réformée. Il étudia pour être avocat et se fit inscrire au barreau de Rouen. Un jour qu'il était en train de plaider, une vieille femme qui faisait un assez mauvais métier le vint avertir qu'une fille l'accusait de lui avoir fait deux enfants. Mettel acheva sa plaidoirie et, sa plaidoirie achevée, se sauva à Paris, prit le nom de Boisrobert et s'attacha au cardinal de Perron. Comme il était poète, la reine-mère, tandis qu'elle était à Blois, le manda auprès d'elle, dans l'intention de faire jouer des comédies, pour que M. de Luynes ne la soupçonnât point d'intriguer. On donna au poète le Pasteur Fido à traduire. Mais Boisrobert demanda 6 mois pour sa traduction. Alors la reine-mère secoua la tête en disant « Vous n'êtes pas notre fête, monsieur Lebois !» Depuis ce temps, on l'appela familièrement Lebois, ce qui était plus court que Boisrobert. Lorsque monsieur l'évêque de Luçon fut redevenu en faveur, Boisrobert fit tout ce qu'il put pour entrer chez lui. Mais l'illustre prélat ne le goûtait aucunement et plusieurs fois gronda ses gens de ne pas le défaire de cet homme qui se trouvait constamment sur son chemin. Boisrobert, quoiqu'il eût appris cela, l'attendit comme d'habitude et s'adressant à lui-même. « Eh, monseigneur, dit-il, vous laissez bien manger aux chiens les miettes qui tombent de votre table. Est-ce que je ne vaux pas un chien ?»« Cela ne toucha point encore monseigneur l'évêque. » Alors Boisrobert, pour vivre, s'avisa d'un expédient. Il allait à la porte de tous les grands seigneurs, demander de quoi se faire une bibliothèque, désignant les livres qu'il désirait qu'on lui donnât. Puis, quand il avait reçu les livres, il les revendait à un libraire qu'il menait avec lui. Il escroqua ainsi 5 ou 6 000 livres. Pendant cette course à la sonnette, il s'était présenté chez M. de Candale, fils du duc d'Épernon, et lui avait demandé de lui donner les pères de l'Église. « Je n'ai point les pères de l'Église, répondit celui-ci, mais dites à M. de Boisrobert que, s'il veut prendre le mien, je le lui donnerai bien volontiers. » Il y avait dans la réponse une petite faute de français, mais un grand seigneur qui fait un mot n'y regarde pas de si près. Enfin, Boisrobert entra chez M. de Richelieu, et voici à quelle occasion. S'étant, selon son habitude, faufilé près de l'évêque de Luçon, et se trouvant là, au moment où celui-ci essayait des chapeaux de feutre, l'évêque en choisit un et s'en coiffa. « Monsieur est-il bien ? » demanda-t-il à ceux qui l'entouraient. « Oui, monseigneur, répondit Boisrobert, mais il vous siérait encore mieux s'il était de la couleur du nez de votre aumônier. » Or le père Mulot, aumônier de sa grandeur et amateur passionné de bon vin, s'était fait, à force d'en boire, un nez qui, comme l'escarboucle des anciens, avait fini par briller jusque dans les ténèbres. Ce cardinal, qui aimait à se moquer de son aumônier, trouva le mot joli. « Décidément, dit-il, le bois, vous avez de l'esprit, je vous attache à ma personne. » Et de ce jour, le bois fit partie de la maison de Monseigneur de Luçon, lequel devait bientôt, effectivement, voir se réaliser le souhait de son flatteur. Disons quelques mots de ce brave aumônier qui avait eu le bonheur de fournir à Boisrobert la comparaison à laquelle il dut sa fortune. C'était un bonhomme s'il en fut, mais qui n'entendait point raison sur le chapitre du mauvais vin et des dîners refroidis. Un jour qu'il y avait un bon déjeuner chez l'évêque de Luçon, M. de Bérulle, depuis cardinal, le prit pour lui servir la messe. Mais voilà que M. de Bérulle, moins pressé de déjeuner que Mulot, s'amuse, avant de consacrer, à faire je ne sais combien de méditations. Mulot enragé, car il comprenait bien que tout serait mangé, ou que ce qui ne serait point mangé serait refroidi. Cependant, il se taisait et servait sa messe en grinçant des dents. Enfin, M. de Bérulle lambina tant que le père Mulot n'y put tenir plus longtemps. « Ah, pardieu ! S'écria-t-il, vous êtes un plaisant homme de vous endormir comme cela sur le calice. Croyez-vous que vous en vaudrez mieux pour nous avoir fait manger notre déjeuner froid et boire notre vin chaud ?» Un autre jour que le conseil se tenait à Charenton, dans ce joli pavillon en briques et en pierre de taille et qui est situé à l'entrée de la ville du côté de Paris, pavillon bâti par Henri IV pour Gabriel Destrées, le père Mulot prie à M. Défiat, père de Saint-Marc, et alors premier écuyer, de l'y mener pour une affaire qu'il avait à poursuivre. Mulot, qu'on savait appartenir à sa grandeur, ne fit pas antichambre. mais la chose ne lui servit aucunement, car on lui refusa net ce qu'il demandait. Fort contrarié de ce mauvais succès, il pria M. Défiat de le ramener à Paris. « Vous avez fini, soit, » répondit M. Défiat, « mais moi, je n'ai point fini encore. » « Ah, ça !» fit l'abbé Mulot. « Vous comptez donc me laisser en aller à pied, vous ?»« Non, mais ayez patience, et quand j'aurai fini, je vous ramènerai en voiture. »« Patience, patience !» gronda l'abbé si haut que M. Défiat l'entendit. « Ah, monse de Mulot, monse de Mulot !» dit celui-ci, « taisons-nous. » « Et pourquoi cela, monse Fiat, monse Fiat ?» répéta l'abbé. « Comment, monse Fiat ?» s'écria le grand écuyer furieux. « Oui, monse Fiat !» reprit l'abbé avec un accent auvergnat qui faisait le bonheur du cardinal de Richelieu, « et quiconque allongera mon nom, je lui raccourcirai le sien. » Et tout en colère, l'abbé Mulot tourna le dos à M. Défiat et s'en revint à pied. Un jour que le pauvre abbé avait la goutte, son laquais fut arrêté par Gilles Boileau, frère de Boileau Despréaux, le satirique. « À propos, lui demanda celui-ci, comment va ton maître ?»« Oh, monsieur, il souffre bien !»« Je parie qu'il jure comme un damné !»« Oh, quant à cela, oui, monsieur !»« Fi, un homme d'église !» dit Boileau. « Monsieur, répondit le laquais, il faut le lui pardonner. » Il dit qu'il n'a d'autre consolation dans son mal. Ne pourrait-il pas prier? Il a essayé, mais cela n'a rien fait. Alors qu'il continue, dit Gilles Boileau en s'en allant de son côté. Ah, monsieur, répondit le laquais en s'en allant de son côté aussi, il n'a pas besoin de la permission. Le père Mulot, avant d'être à monsieur de Luçon, était chanoine de la Sainte-Chapelle. Dans cette qualité, il était simplement ami et serviteur de M. de Luçon. Après la mort du maréchal d'Ancre, et quand M. de Luçon avait été relégué à Avignon, Mulot vendit tout ce qu'il avait, réunit 4 000 écus et les porta au proscrit qui en avait grand besoin. Le proscrit, de retour et en faveur, fit Mulot son aumônier. Mais ce titre d'aumônier de sa grandeur sonnait mal aux oreilles de Mulot, qui lui préférait probablement celui de chanoine de la Sainte-Chapelle, et chaque fois qu'on l'appelait Monsieur l'aumônier, il entrait en rage. Un jour, le cardinal, qui, ainsi que nous l'avons dit, se plaisait fort à le faire enrager, feignit d'avoir reçu une lettre sur laquelle se trouvait cette suscription « À Monsieur Mulot, aumônier de son éminence ». Et rencontrant l'aumônier, « Tenez, l'abbé, dit-il, voici une lettre que je crois être pour vous. » Celui-ci jeta les yeux sur l'adresse et se sentant pris de sa répugnance ordinaire pour le titre d'aumônier, « Quel est le sot qui a écrit cette lettre ? » dit-il. « Le sot ? Oui, le sot, je redis le mot. »« Ouais, » fit le cardinal, « et si ce sot, c'était moi ?»« Eh bien, quand ça serait vous, ce n'est point la première sottise que vous auriez faite, n'est-ce pas ?» Le cardinal s'amusait souvent à mettre l'abbé Mulot, bon mangeur et beau buveur, aux prises avec un gentilhomme de Touraine nommé Lafalou et qui était doué des mêmes qualités. Ce Lafalou avait été placé près du cardinal par le roi pour empêcher qu'on ne l'accablât de demandes, qu'on arrivât jusqu'à lui sans avoir quelque chose d'important à lui dire et peut-être aussi pour lui servir un peu d'espion. À cette époque, le cardinal n'avait pas encore un maître de chambre et des gardes. Quand les autres disaient « Oh, qu'il ferait beau chasser aujourd'hui !»« Oh, qu'il ferait beau se promener aujourd'hui !»« Oh, qu'il ferait beau jouer à la paume ou danser aujourd'hui !» Lafalou disait « Oh, qu'il ferait beau manger aujourd'hui !» Lorsqu'il se mettait à table, son bénédicité était « Mon Dieu, Seigneur, faites que le dîner que je vais manger soit bon !» Lorsqu'il avait fini de dîner, ses grâces étaient « Mon Dieu, Seigneur, faites que je digère bien le dîner que je viens de manger. » Quant à l'abbé Mulot, sans gêne avec le cardinal, on comprend bien qu'il se gênait moins encore avec les étrangers qu'avec son éminence. Témoin sa réponse à M. le marquis Défiat. Nous avons parlé de ce nez à qui le vin avait fini par communiquer sa couleur. En effet, le bon abbé aimait tant le vin qu'il ne pouvait s'empêcher de faire une aigre réprimande à tous ceux qui n'en avaient pas de bon. Si bien que, lorsqu'il dînait en ville et qu'on lui servait du vin qui n'était pas de son goût, il faisait venir les valets derrière sa chaise et leur disait « Or, ça, vous êtes des malheureux !»« Et de quoi, monsieur l'abbé ?»« De n'avertir point votre maître, qui peut-être ne s'y connaît point, qu'il se fait du tort de n'avoir pas de bon vin à donner à ses amis. » Nous avons dit avec quelle liberté l'abbé parlait au cardinal. Il est vrai que le cardinal familiarisait plus avec lui qu'avec personne, lui faisant toutes sortes de tours dont le pauvre aumônier était quelquefois le mauvais marchand. Un jour que le cardinal et lui devaient aller ensemble à la promenade, le cardinal s'amusa à mettre des épines sous la selle du cheval de son aumônier. Celui-ci, enfournant la bête, appuya naturellement sur la selle. Les épines entrèrent dans les reins du cheval, lequel se mit à regimber de telle façon que l'aumônier n'eut que le temps de l'empoigner par le cou, puis, dans un moment de calme, de sauter à terre. Une fois sur ce plancher solide, l'aumônier regarda autour de lui et vit le cardinal qui se tenait les côtes de rire. Lui ne riait point, il s'en fallait même de beaucoup. Il alla droit au cardinal et, lui mettant presque le poing sous le nez, « Oh, décidément, lui dit-il, vous êtes un méchant homme, monseigneur. » « Chut !» fit l'éminentissime, riant toujours. « Chut, mon cher mulot, ou je vous fais pendre. »« Comment vous me faites pendre ?»« Oui, vous révélez le secret de la confession. » Et ce ne fut pas la dernière fois que le bon chanoine tomba dans cette faute. Car un jour que le cardinal disputait avec lui à table, et le poussait, selon son habitude, pour s'amuser de sa colère. « Tenez !» lui dit Mulot exaspéré. « Vous ne croyez en rien, pas même en Dieu. »« Comment je ne crois pas en Dieu ?»« Voyons !» s'écria l'aumônier. « N'allez-vous pas me dire aujourd'hui que vous y croyez, quand hier vous m'avez avoué à confesse que vous n'y croyez pas ?» Talmant d'Héréo, qui raconte l'anecdote, ne dit point comment le cardinal prit cette plaisanterie de monsieur son aumônier. Revenons à Boisrobert. Après avoir eu tant de peine à s'établir avec le cardinal, Boisrobert en était arrivé à lui être tellement indispensable qu'en mourant, il dit « Je me contenterai d'être aussi bien avec Monseigneur Jésus-Christ que je l'ai été avec Monseigneur le cardinal de Richelieu. » Cette faveur valut à Boisrobert celle d'aller en Angleterre avec M. et Mme de Chevreuse lorsqu'il fut question du mariage de Mme Henriette Marie de France avec le prince de Galles, lequel fut depuis Charles Ier. Mais l'air de l'Angleterre, à ce qu'il paraît, ne convenait point à Boisrobert. Il tomba malade et fit sur sa maladie une élégie dans laquelle il appelait le climat de l'Angleterre un climat barbare. L'élégie faite, Boisrobert n'eut rien de plus pressé que de la montrer à Madame de Chevreuse. Madame de Chevreuse la prit, la lut, et n'eut rien de plus pressé de son côté que de la montrer au comte de Carlisle et au comte Hollande, auxquels on prétendait qu'elle montrait bien autre chose. Le climat barbare choqua particulièrement le comte Hollande, qui, la première fois qu'il vit Boisrobert, l'en querella devant Madame de Chevreuse. Boisrobert était homme d'esprit, et s'excusa en disant qu'il tenait pour barbare tous les lieux où il était malade, et qu'il en eût dit autant du paradis terrestre en pareille occasion. Ce à quoi il ajouta « Mais depuis que je me porte bien et que le roi m'a envoyé 300 jacobus, le climat me semble tout à fait radouci. » Le comte Carlisle trouva le mot joli, mais le comte Hollande ne pouvait passer par-dessus le climat barbare. Lorsque Madame de Chevreuse reprit le chemin de la France, ces messieurs l'accompagnèrent. À quelques miles de Londres, un coteau se présenta au bord de la Tamise. Comme le chemin était fort rude, on descendait de voiture pour monter à pied. À mesure que l'on montait, le site devenait plus beau. « Oh, le merveilleux pays !» s'écria Boisrobert en arrivant au sommet. « C'est pourtant un climat barbare !» dit Lord Hollande. Boisrobert avait acheté en Angleterre 4 hackneys et par Madame de Chevreuse, il fit demander la permission au duc de Buckingham, grand amiral, de les faire passer en France. Lord Hollande était là lorsque Buckingham écrivit sur la passe de Boisrobert « 4 chevaux ».« Prêtez-moi la plume, » dit-il au grand amiral, « j'ai quelque chose à ajouter. » Buckingham lui prêta la plume et Lord Hollande ajouta « pour le tirer d'autant plus promptement de ce climat barbare. Boisrobert était bon camarade et des plus serviables pour ses confrères. Méret, l'auteur de la Sylvie, était attaché au duc de Montmorency, dont il recevait 400 livres de pension, quand le duc perdit la tête. Méret, près du duc et à l'époque de sa puissance, avait rendu de mauvais offices à Boisrobert, s'était raillé de lui et avait bafoué ses pièces. Néanmoins, sachant Méret malheureux, Boisrobert oublia tout, alla trouver le cardinal et lui dit la situation de Méret, ajoutant « Monseigneur, quand il n'y aurait qu'à cause de la Sylvie, toutes les dames vous béniront d'avoir fait du bien au pauvre Méret. » Le cardinal finit par céder et donna 200 écus de pension à Méret. Boisrobert emporta le brevet à Conrart et à Chapelain, qui étaient venus le solliciter en faveur de son ancien ennemi, en disant « Je veux qu'il vous en ait l'obligation. » Puisque nous venons de nommer Conrart et Chapelain, disons aussi deux mots de ces hommes qui eurent, le dernier surtout, une si grande célébrité pendant le XVIIe siècle que Louis XIV mettait sa main au bas de l'arrêté qui augmentait sa pension, portée de 2000 à 3000 livres, la pension de M. Chapelain, le plus grand poète qui ait jamais existé. Jean Chapelain était fils d'un notaire de Paris. Il commença par être précepteur-gouverneur de Messieurs de la Trousse, fils du grand prévôt. Cette qualité de gouverneur lui avait donné le droit de porter l'épée, et ne l'étant plus, il avait cependant continué de la porter. Cela inquiétait fort ses parents, qui prièrent un de ses amis de l'engager à quitter cette arme. Mais, au lieu de se risquer à cette prière, l'ami prit un biais qui lui réussit. Il attendit Chapelain dans la rue, et, allant à lui, « Oh, mon ami, lui dit-il, quel bonheur de te rencontrer et que tu aies ton épée !»« Pourquoi cela ?»« Je viens de ramasser une querelle. Mon adversaire a un ami qui veut se battre à toute force. Tu vas me servir de second. »« Impossible, dit Chapelain. Il faut que je rentre chez moi pour affaire de la plus haute importance. » Et, en effet, il rentra chez lui, mais pour mettre son épée au clou. Depuis, il ne l'en détacha jamais. C'était un des grands hanteurs de l'hôtel Rambouillet, dont nous aurons bien aussi à nous occuper un peu. Il y fut introduit vers l'époque du siège de La Rochelle, c'est-à-dire en 1627. Madame de Rambouillet racontait, 20 ans après, à Talmant d'Héréau, qu'il avait, le jour où il fit son apparition dans la fameuse chambre bleue, un habit de satin colombin, doublé de panne verte et passementé de petits passements colombins et verts à œil de perdrix, comme on en portait 10 ans auparavant. Il avait avec cela les plus ridicules bottes du monde et les plus ridicules bas à bottes. En outre, il portait du réseau au lieu de dentelle. Plus tard, il avait adopté l'habit noir. Mais il était aussi ridicule avec l'habit noir qu'avec l'habit colombin. C'était au point qu'il avait l'air de n'avoir jamais rien de neuf. Le marquis de Pisani avait fait sur lui des vers perdus depuis et dont on ne connaît que les deux suivants, j'avais les bas de Vaugelas et les bottes de Chapelain. C'était surtout la perruque et le chapeau du poète qui étaient, à ce qu'il paraît, des miracles de vétusté. Et cependant, pareil au héros de Murgère qui avait sa pipe pour aller dans le monde, laquelle était encore plus belle que la pipe qu'il avait pour rester chez lui, Chapelain avait, pour rester chez lui, une perruque et un chapeau bien autrement vieux encore que ceux qu'il avait pour aller dans le monde. Talmant d'Héréau raconte lui avoir vu, lors de la mort de sa mère, un crêpe qui, à force d'être porté, était devenu feuille morte et un justaucorps noir moucheté qui venait de sa sœur, avec laquelle il demeurait. On mourait de froid dans sa chambre et il n'y faisait du feu que quand l'eau cassait les pots en y gelant. Avec cela, il était petit, laid de visage et crachotant toujours. « Je ne comprends pas, dit Talmant d'Héréau. Comment ce diseur de vérité, cet homme qui rompt tout le monde en visière, M. de Montausier, en un mot, n'a jamais eu le courage de lui reprocher sa mesquinerie. Souvent je lui ai vu, à l'hôtel de Rambouillet, ses mouchoirs si noirs que cela faisait mal au cœur. Je n'ai jamais tant ri sous cape que de le voir cajoler Pélaquin, une belle fille qui était à Madame de Montausier et qui avait bien la mine de se moquer de lui, car il avait un manteau si usé qu'on en voyait la corde à 100 pas. Par malheur, c'était à une fenêtre où le soleil donnait, elle voyait la corde grosse comme les doigts. Et cependant, Boisrobert racontait que, lors d'un paiement qu'il avait fait à Chapelain, celui-ci lui avait envoyé un sou qu'il y avait en trop. On disait encore qu'il avait fait donner à Coltet une pension de 600 francs qui lui revenait à lui. Nous raconterons plus tard à quelle occasion. Chapelain avait, comme dit Talmant des Réaux, toujours eu la poésie en tête. Il est vrai que Talmant ajoute, dans ce charmant style du XVIe siècle, si concis et si pittoresque, « quoi qu'il n'y fût pas né ». Cependant, ajoute le même auteur, à force de retâter, il a fait deux ou trois pièces fort raisonnables. Ces pièces, c'était d'abord le récit de la Lionne, pour lequel le grand Balzac lui écrivait le 3 juillet 1663. Je trouve cette Lionne bien heureuse d'avoir le ciel pour amphithéâtre et d'y être mise par une telle main que la vôtre. Vous la faites grandir si bien et si agréablement, et son rugissement est si doux et si harmonieux dans vos vers, qu'il n'y a pas de musique qui la vaille. Puis la plus grande partie de Zirphée. En nommant la Zirphée au lecteur de 1855, nous leur parlons hébreu. Donnons donc quelques explications qui leur serviront de fil dans le labyrinthe où nous les conduisons. Madame de Rambouillet avait grand plaisir à surprendre ses habitués. Elle fit donc faire dans cette intention un grand cabinet avec trois croisées à trois faces différentes qui donnaient sur le jardin des 15-20, sur le jardin de l'hôtel de Chevreuse et sur le jardin de l'hôtel Rambouillet. Elle fit bâtir, peindre et meubler ce cabinet sans que personne de la grande foule de gens qui allaient chez elle en sût rien. Elle faisait passer les ouvriers par-dessus les murailles pour aller travailler de l'autre côté de ces murailles. Un monsieur Arnaud trouva une échelle dressée et eut l'idée d'y monter. Mais à peine avait-il le pied sur le second échelon qu'on l'appela. Il répondit à l'appel et n'y pensa plus. Or, un soir qu'il y avait nombreuses compagnies à l'hôtel, tout à coup on entendit un grand bruit derrière la tapisserie. La muraille sembla s'ouvrir et Madame de Rambouillet, qui fut depuis Madame de Montausier, vêtue superbement, apparut dans un cabinet magnifique et merveilleusement bien éclairé, qui semblait avoir été apporté là par enchantement. La surprise fut grande. Cette surprise excita la verve de Chapelain. Quelques jours après, il fit attacher secrètement dans ce cabinet un rouleau de vélin sur lequel était inscrit une ode à Zirphée, reine d'Argène, héroïne des Amadis, personnifiée dans le carrousel de la place royale de 1612. Dans son ode, dont nous allons, au reste, donner un fragment, Chapelain disait que cette loge, qui porta depuis le nom de loge de Zirphée, n'avait été faite que pour mettre Arthénis à couvert de l'injure des ans. Notons que Madame de Rambouillet, que l'on appelait Arthénis, était atteinte d'une foule d'infirmités. Voici les meilleures stances de cette ode. Elles pourront faire juger de la manière de cet homme qui emplit toutes les bibliothèques de ses livres et la moitié du XVIIe siècle de sa renommée et qui, aujourd'hui, connu seulement par les épigrammes de Boileau, n'existe plus, peut-être, que dans la bibliothèque de la rue de Richelieu, et encore. Son vaste cœur, en ses bas lieux, pour remplir sa grandeur, ne voit rien d'assez ample. Et son esprit prodigieux est l'exemple public, mais qui n'a point d'exemple. De douce majesté son corps est revêtu, et qui le détruirait, il détruirait le temple de l'honneur et de la vertu. Mais le ciel, d'où vient sa clarté, pense à la retirer et l'envie à la terre, et, ravissant sa liberté, par 100 mots pour la voir, il lui livre la guerre. Rien d'un si fier dessein ne le peut divertir. Il la veut posséder et montre le tonnerre à qui n'y veut pas consentir. Urgande sut bien autrefois, en faveur d'Amadis et de sa noble bande, par ses charmes, fixer les lois du temps à qui les cieux veulent que tout se rende. J'ai dû faire à vos yeux ce qu'on a fait jadis, conserver Arthénis avec l'art dont Urgande a su conserver Amadis. Par la puissance de cet art, j'ai construit cette loge aux mots inaccessibles, quand, des coups du sort à l'écart, franche des changements de l'être corruptible, pour qui, seul, en roulant, les cieux ne roulent pas, bref, où ne montrent pas leur visage terrible la vieillesse ni le trépas. cette incomparable beauté que sans mots attaqués et pressés de se rendre, par cet édifice enchanté, trompera leurs efforts et s'en pourra défendre. Elle y brille en son trône et son éclat divin, de là, sur les mortels, va désormais s'épandre sans nuage, éclipse ni fin. Enfin, la troisième chose à laquelle Talmandereau accorde du mérite, c'est l'ode de Chapelain au cardinal de Richelieu, ode qui a été imprimée d'abord à part, puis reproduite dans la publication des Nouvelles Muses des sieurs Godeau, Chapelain et Habert. Elle avait 30 strophes de divers chacune. C'était vers ce temps que notre poète composait La Pucelle. Sur les deux premiers chants qu'il lisait de tous côtés, M. de Longueville, tout enchanté, lui fit offrir d'être de sa maison. Chapelain répondit qu'il était engagé comme secrétaire de M. de Noailles à Rome. Chapelain était fort susceptible. À quelque temps de là, M. de Noailles lui ayant fait une brutalité, il le planta là. M. de Noailles pensa en enragé. Il remua ciel et terre pour le ravoir et le réclama au cardinal. Mais Boisrobert, prié d'intervenir, fit souvenir au cardinal qu'il devait être obligé à Chapelain pour son ode. De sorte que le cardinal resta neutre. Sur ces entrefaites, M. de Longueville apprit que Chapelain était déféré de son secrétariat d'ambassade. Alors il se fit amener le poète et, après avoir causé plus d'une heure avec lui, sans lui imposer aucune condition, il lui remit une cassette en lui disant de ne l'ouvrir qu'à son retour. À son retour, Chapelain ouvrit la cassette et y trouva le brevet d'une pension de 2000 livres hypothéquée sur tous les biens de M. de Longueville. Chapelain avait en outre du cardinal une pension de 1000 livres que Boisrobert voulut faire porter à 1600. Ce sont ces derniers 600 francs que Chapelain fit allouer à Colletet. La Pucelle fut 20 ans à paraître. Pendant 20 ans, tout Paris s'en occupa. Aussi François Paillot de Linières, auteur satirique contemporain de Chapelain, fit-il contre lui cet épigramme au moment où l'on annonçait l'apparition du poème. La France attend de Chapelain, ce rare et fameux écrivain, une merveilleuse pucelle. La cabale en dit force bien, depuis 20 ans on parle d'elle, dans 6 mois on n'en dira rien. Chapelain était furieux de l'épigramme. Il disait tout haut que celui qu'il avait fait méritait des coups de bâton. Mais il ne lui en donna point. Passons à Conrart. Valentin Conrart était né à Valenciennes et fut le premier secrétaire perpétuel et le vrai fondateur de l'Académie française. Il ne faut pas lui en vouloir, il ne savait probablement pas qu'il faisait de l'Académie un nid à grand seigneur. Il était fils d'un honnête bourgeois de Valenciennes qui avait du bien, mais qui, austère observateur des lois somptuaires, ne permettait à son fils de porter ni jarretière, ni rose de soulier, et qui lui faisait couper les cheveux au-dessus de l'oreille. Il en résultait que le jeune Conrart avait des jarretières et des roses qu'il ôtait et mettait au coin de la rue. Un jour, ainsi accoutré, il eut la chance de donner contre son père. Celui-ci le voulait maudire et chasser de la maison. Conrart ne reçut aucune éducation, tant son père avait peur qu'il ne se fît écrivain. De là son ignorance complète de la langue latine. Par malheur, au point de vue de son père, le jeune Conrart était le cousin de M. Godeau, évêque de Vence, qui fut aussi de l'Académie française et qui écrivait des vers érotiques d'une main et des poésies sacrées de l'autre. Ce Godeau avait une grande réputation, et surtout chez le cardinal, devant qui on avait l'habitude de dire, quand on faisait l'éloge d'une pièce de vers, quel que fût son auteur, « Voilà qui est admirable, Godeau n'eût pas fait mieux !» Mais le père Conrart vint à mourir, et rien ne gêna plus la vocation du fils que son peu d'éducation. N'osant entreprendre le latin, il se retourna vers l'italien qu'il apprit assez bien, et vers l'espagnol qu'il apprit assez mal. Trop faible pour faire parler de lui par lui-même, il se mit à prêter de l'argent aux gens d'esprit et se constitua leur commissionnaire. Dans le seul espoir de se faire connaître en Suède, il prêta 6000 livres au comte de Tott, grand écuyer et ambassadeur du roi de Suède, lequel était à Paris sans un sou. La rage du bel esprit et la passion des livres le prirent à la fois. Il eut une superbe bibliothèque, la seule peut-être où il n'y eut ni un livre grec, ni un livre latin. Il était à l'affût de tout ce qui se faisait pour faire comme les autres. Le vent était-il au rondeau? Il faisait des rondeaux. Le temps tournait-il au satyre? Il faisait des satyres, et ainsi de suite. Rondeau, énigme, paraphrase. Cette tension continuelle d'esprit lui fit porter le sang à la tête, de sorte que son visage se mit à fleurir comme un parterre au printemps. Ce que voyant, il se rafraîchit tellement que ses nerfs en souffrirent et qu'il en eut la goutte. Il en résulta que, podagre des jambes et enluminé du visage, il souffrait à la fois de la tête et des pieds. Son obligeance et ses offres continuelles de service étaient presque aussi désagréables que l'eussent été chez un autre l'égoïsme et la sécheresse. Malville disait de lui « Ne vous semble-t-il pas que Conrat aille par les rues en disant « Mon amitié, ma belle amitié, qui en veut de mon amitié, de ma belle amitié ?» Il demandait en effet à tous ses amis des devises sur l'amitié, et quand il les avait, il les faisait enluminer sur vélin. Il en demanda une à Madame de Rambouillet comme aux autres. Celle qu'elle lui donna était une vestale dans son temple, attisant le feu sacré. La légende était « Faux Vébo ». Ce grand prêtre de l'amitié se brouilla cependant avec Talmand des Réaux et avec Patru, parce que l'amitié que les deux jeunes gens avaient l'un pour l'autre paraissait l'emporter sur celle qu'ils avaient pour lui, et avec Ablancourt, parce que celui-ci lui avait écrit tout simplement « À M. Conrart, secrétaire du roi », au lieu de « À M. Conrart, secrétaire conseiller du roi ». Quand le cardinal de Richelieu, soufflé par Conrart, eut l'idée de faire l'académie, on ne trouva point ainsi, tout à coup, 40 hommes de mérite pour la fonder. Boisrobert, auquel nous revenons, fut chargé d'y mettre les passe-volants. C'est ainsi que l'on nommait les faux soldats non enrôlés que les capitaines font passer aux revues pour que l'on croie que leurs compagnies sont complètes. Ce fut donc Boisrobert qui fut chargé d'y mettre les passe-volants. Il ne s'en fit pas faute et l'on appela les 12 ou 15 académiciens qui furent nommés ainsi les enfants de la pitié de Boisrobert. Il s'intitulait lui-même le solliciteur des muses affligées et payait souvent d'avance 1 ou 2 quartiers de leur pension à de pauvres diables d'auteurs qui les lui remboursaient à leur loisir. Bien souvent, il se brouilla avec le cardinal pour avoir parlé trop hardiment, jamais contre, mais toujours en faveur de tel ou tel disgracié. Le cardinal se roidissait contre cette influence, mais Boisrobert finissait toujours par arriver au but. Il connaissait le faible du cardinal. Il le faisait rire, et quand le cardinal avait ri, il était désarmé. On se rappelle le maréchal de Vitry, le meurtrier, disons mieux, l'assassin du maréchal d'Ancre. Eh bien, à son tour, par ce revirement naturel des choses de ce monde, avec Deluynes, son protecteur, il avait non seulement perdu son crédit, mais encore sa liberté. Le cardinal l'avait fait mettre à la Bastille à propos d'un évêque qu'il avait frappé. Étant là, Vitry envoya prier Boisrobert à dîner. Malgré les observations qu'on lui fit, Boisrobert y alla. Ce ne fut point tout. En dînant, le maréchal lui fit promettre de dire au cardinal certaines choses qu'il tenait beaucoup à ce que le cardinal sût. Le soir du même jour, Boisrobert, comme de coutume, entra chez le cardinal. « Ah, c'est toi, le bois !» lui dit celui-ci. « Oui, monseigneur. » « Eh bien, quelle nouvelle ? Je dirai d'abord à votre éminence que j'ai fait aujourd'hui la plus grande chaire du monde. »« Bon, aurais-tu dîné avec la Falloux ?»« Non, monseigneur, je doute même que votre éminence devine où j'ai dîné. »« Où as-tu dîné, le bois ?»« À la Bastille, monseigneur. »« Ah ah ! » fit le cardinal en rechignant. « Chez monsieur du Tremblay, son gouverneur ?»« Non, monseigneur, chez monsieur de Vitry, son prisonnier. » « Chez monsieur de Vitry ?» Et le cardinal fronça le sourcil. Boisrobert ne fit pas semblant de s'en apercevoir. « Vous n'avez pas idée, monseigneur, comme il est devenu savant » continua-t-il. « Vraiment ?» fit le cardinal. « Et sur quoi, savant ?»« Sur les choses sacrées. Il m'a prouvé, par des passages des pères, que frapper un évêque n'était pas un crime. »« Ah, le bois !» dit le cardinal. « Vous vous faites donc le censeur du roi ?» Vous faites donc le petit ministre ? Monseigneur ! Le roi a blâmé l'action du maréchal et veut qu'il en soit puni. et je vous trouve bien insolent d'être de l'avis de M. de Vitry contre celui du roi et le mien. » Vous avez raison, monseigneur, dit Boisrobert en s'inclinant, et jamais plus je ne parlerai des affaires de l'État. Ah, je disais donc à propos de cela que monseigneur m'avait donné cette commission. Et il se mit à rendre compte au cardinal de la commission que le maréchal lui avait donnée. Puis, le récit achevé, « Monseigneur, continua-t-il, on m'a encore chargé de vous dire, le bois, ce qu'on vous a chargé de me dire, est-ce affaire d'État ?»« Non, monseigneur, non. On m'a encore chargé de vous dire que monsieur le maréchal de Vitry donnera 100 000 écus à sa fille le jour où vous lui ferez l'honneur de lui donner un mari de votre main. »« Le bois !» s'écria le cardinal courroucé. « Tout beau, je vous prie !»« Ah, cela me rappelle que monseigneur m'avait encore donné telle commission. » Et Boisrobert se mit à raconter cette seconde commission comme il avait fait de la première. Mais tout à coup, s'arrêtant, « Attendez, monseigneur, j'ai encore en charge de vous dire... »« Par qui ? Par monsieur de Vitry ?»« Oui, monseigneur, qui a un grand garçon bien fait, bien nourri, qu'il vous offre. Ordonnez de lui comme vous voudrez. » « Ah, le bois, pour cette fois, c'est trop fort !»« Pardon, monseigneur, mais monsieur le maréchal m'avait chargé d'une troisième commission. Cette commission était... »« Voyez-vous, le vilain !» s'écria le cardinal. « Il me dira tout sans que je puisse me fâcher. » Et, en effet, Boisrobert lui dit tout. Seulement, le cardinal se fâcha. Voilà donc Boisrobert brouillé avec lui. Par bonheur, Citoy, le médecin du cardinal, était des amis de Boisrobert. Le lendemain, comme le cardinal était à Rueil et que sortait d'auprès de lui quelqu'un qui l'avait fort ennuyé, « Si toi, demanda-t-il, avez-vous là quelqu'un qui me distrait de ce maroufle ?»« Monseigneur, je n'ai que Boisrobert. »« Boisrobert, je lui avais interdit la maison. Qui l'a fait entrer dans l'antichambre ?»« Moi, monseigneur, je l'ai trouvé tantôt dans le parc. Il allait se jeter à l'eau si je ne l'en eusse empêché. » »« Il se repent alors ?» Amèrement, monseigneur. Faites-le donc venir. » Boisrobert, qui écoutait à la porte, entra aussitôt, fit 100 comptes au cardinal, et ils furent meilleurs amis que jamais. Aussi, quand ils étaient brouillés et que le cardinal était malade, « Tous mes remèdes ne feront rien, disait Citoy, s'il n'y a entre 10 et 12 grammes de Boisrobert. » Il y avait de par le monde une pauvre fille nommée Mademoiselle de Gournay, qui dut de ne pas mourir de faim à cette infatigable obligeance de Boisrobert. Mademoiselle de Gournay était une vieille fille de Picardie, demoiselle de bonne maison. À l'âge de 19 ans, elle avait lu les essais de Montaigne et avait désiré connaître l'auteur. Justement, sur ces entrefaites, Montaigne vint à Paris. Aussitôt, s'étant enquise de son adresse, elle l'envoya saluer et lui déclarer l'estime qu'elle faisait de sa personne et de ses livres. Lui la vint voir le lendemain et, la trouvant si jeune et si enthousiaste, lui offrit l'affection et l'alliance de père à fille, ce qu'elle reçut avec gratitude. En conséquence, elle s'intitulait « La fille d'alliance de Montaigne ». Elle faisait des vers pas trop mauvais s'il faut en croire un échantillon qui nous reste. Il s'agit de ce quatrain sur Jeanne d'Arc. « Peux-tu bien accorder, Vierge du ciel chérie, la douceur de tes yeux et ce glaive irrité ? La douceur de mes yeux caresse ma patrie et ce glaive en fureur lui rend sa liberté. » Boisrobert connaissait Mademoiselle de Gournay et, sachant qu'elle aidait dans la détresse, il résolut de la faire secourir par le cardinal. À cet effet, il montra à son éminence, un jour qu'elle était de bonne humeur, le quatrain que nous venons de citer. Le cardinal le lut et y applaudit. Boisrobert lui nomma alors Mademoiselle de Gournay. « Mademoiselle de Gournay, dit le cardinal, qui connaissait tout son pari littéraire, n'est-ce pas l'auteur de l'ombre ?»« Justement, monseigneur. » Et, en effet, Mademoiselle de Gournay avait publié un volume intitulé « L'ombre ou les présents de Mademoiselle de Gournay ». Le bois, tout enchanté, alla annoncer cette bonne nouvelle à Mademoiselle de Gournay et la prévenir que, le surlendemain, il la viendrait prendre pour la conduire chez son éminence. Il ne faut pas demander si la vieille fille se tint prête pour l'heure dite. On arriva au palais cardinal et l'on fut reçu sans retard. Le cardinal accueillit la bonne vieille fille avec un compliment composé tout entier de vieux mots tirés de son ombre. Elle vit bien que le cardinal voulait rire, mais sans se déconcerter. « Vous riez de la pauvre vieille fille, dit-elle. Mais riez, riez, grand génie. Ne faut-il pas que le monde entier contribue à votre divertissement ?» Le cardinal, étonné de cette présence d'esprit, lui fit ses excuses. Puis, se tournant vers Boisrobert, « Il faut faire quelque chose pour mademoiselle de Gournay, dit-il. « C'est bien pour cela, répondit celui-ci, que je l'amène à votre éminence. » « Eh bien, reprit le cardinal, je lui donne 200 écus de pension. »« Bon pour elle, monseigneur, et elle vous en remercie. Mais elle a des domestiques. »« Ah, elle a des domestiques ?»« Oui, une fille noble ne peut se servir elle-même, votre éminence comprendra cela. »« Je le comprends. Et quels domestiques a-t-elle »« Elle a mademoiselle Jamin, répondit Boisrobert. »« Mademoiselle Jamin ? Qu'est-ce que cela ? La bâtarde d'Amadis Jamin, page de Ronsard. Je donne 50 livres par an pour la bâtarde d'Amadis Jamin, page de Ronsard, répondit le cardinal. Bon pour Jamin, et mademoiselle de Gournay vous en remercie en son nom. Mais elle a encore Mamie Piaillon. Qu'est-ce que Mamie Piaillon ? Demanda le cardinal. C'est la chatte de mademoiselle de Gournay, répondit Boisrobert. « Je donne 20 livres de pension à Mamie Piaillon, répondit l'éminentissime, mais à la condition qu'elle aura des tripes. »« Elle en aura, dit Boisrobert, et mademoiselle de Gournay vous en remercie au nom de Mamie Piaillon, monseigneur. »« Mais... »« Comment le bois ? » dit le cardinal. « Il y a encore un mai ?»« Oui, monseigneur, mais Mamie Piaillon a chatonné. »« Combien de chatons ? » ?»« 5, monseigneur. » « Ouais, fit le cardinal, Mamie Piaillon est bien féconde. N'importe, le bois, j'ajoute une pistole pour chaque chaton. » Et mademoiselle de Gournay, enchantée, heureuse et sauvée de la misère pour le reste de sa vie, s'en alla avec 4 pensions. Une de 200 écus pour elle, une de 50 écus pour Jamin, une de 20 livres pour Mamie Piaillon et une d'une pistole pour chacun des chatons. Avouez, cher lecteur, que le cardinal ne vous apparaissait point tout à fait sous cet aspect-là. Aussi, mademoiselle de Gournay était-elle fort reconnaissante à Boisrobert qu'elle appelait toujours le bon abbé. Seulement, elle le craignait à cause de ses comptes. Il disait de sa protégée qu'elle avait un râtelier de dents de loup marin, qu'elle l'ôtait pour manger et le remettait ensuite pour parler plus facilement, puis que, quand les autres parlaient à leur tour, elle l'ôtait de nouveau et se dépêchait de doubler les morceaux. Enfin que, quand les autres avaient fini, elle le remettait pour dire aussi son mot et sa tirade. Mamie Piaillon a eu les honneurs de l'histoire, non seulement dans Talmandéréo, mais encore dans l'abbé de Marolles. Ce qu'en dit celui-ci est même venu jeter quelques doutes sur le sexe de cet intéressant animal, et ne tendrait pas à moins qu'à faire accuser Boisrobert et mademoiselle de Gournay de supercherie, puisqu'un matou n'aurait pas pu chatonner. Voilà ce qu'en dit l'abbé de Marolles. Le piaillon de mademoiselle de Gournay, en 12 années qu'il a vécu près d'elle, ne fut pas délogé une seule nuit de sa chambre pour courir des gouttières comme les autres chats. Vous comprenez le trouble qu'une pareille dissidence jeta parmi les commentateurs. Par bonheur, à force de recherche, un archéologue retrouva 2 vers de mademoiselle de Gournay adressés à Piaillon. Dans ces vers, elle l'appelait « donzelle ». C'était donc Talmandéréo qui avait raison et l'abbé de Marolles qui avait tort. C'était donc Mamie Piaillon et non pas le Piaillon. C'était donc une chatte et non pas un chat. Mamie Piaillon pouvait donc avoir chatonné, quoiqu'elle ne courût point sur les gouttières. Et ce fut sans remords aucun que mademoiselle de Gournay dut jouir des 5 pistoles accordées par le cardinal aux 5 chatons.